Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-uppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. ArmorAll, less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bertrand Piccard, le fondateur, bon, il y a beaucoup de titres, mais le fondateur de Solar Impulse. Il est explorateur écolo, aéronaute, aviateur, médecin psychiatre, s'aventurier comme néologisme qui te caractérise, Bertrand. Je me trompe?
Oui, bonjour Alice. Oui, effectivement, non, s'aventurier, c'est le titre que m'avait donné mon premier éditeur.
Très, très bien choisi comme titre. Écoute, même si je pense que beaucoup de nos auditeurs te connaissent, j'aimerais que tu me racontes un petit peu ce qu'est Solar Impulse, parce que, mis à part l'avion solaire, finalement, les gens ne connaissent pas tous exactement les tenants et aboutissants de Solar Impulse, et puis aussi comment tout ce beau projet est né.
Oui, eh bien écoute, Solar Impulse, c'est le résultat de tout ce qui me passionne, m'intéresse dans la vie et ce que j'ai envie de laisser comme contribution. En fait, moi, je viens d'une famille d'explorateurs. Par conséquent, avec le grand-père qui était le premier homme dans la stratosphère, le père qui était le premier homme à toucher le fond de la fosse des Mariannes, c'est vrai que le monde des pionniers, des explorateurs, l'inconnu, la découverte, tout ça, ça m'a captivé depuis toujours. Mais en plus de ça, la protection de l'environnement, bien sûr également. Et en tant que médecin psychiatre, la qualité de vie, pour moi, c'est quelque chose de primordial à promouvoir sur cette planète. Donc Solar Impulse, c'est le condensé de tout ça. C'est un avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant, un avion expérimental qui a été construit par mon équipe et que j'ai fait voler autour du monde pour montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent accomplir des buts a priori impossibles et encourager le maximum de gens possible à utiliser ces énergies renouvelables et ces technologies propres dans leur vie de tous les jours, dans leurs entreprises et si possible les politiciens les promouvoir davantage dans leur pays.
C'est super ce tour du monde, c'était en 2015, je me trompe, non?
Oui, 2015-2016, ça a été un peu plus long que ce qu'on imaginait. L'impossible prend toujours un peu plus de temps.
Et je crois que ta prise de conscience, ça s'est fait lorsque tu as fait d'abord un premier vol en ballon.
Alors,
c'est là que tu as pris conscience de tout ça?
Mais non, la conscience environnementale, je l'avais déjà avant.
Quand, tu l'avais déjà.
Comme mon père est descendu dans la fosse des Mariannes, c'était déjà pour montrer qu'il y avait de la vie, même au fond des océans, et qu'il fallait pas y jeter les déchets radioactifs. Comme mon grand-père est monté dans la stratosphère, c'était pour montrer qu'on pouvait voler dans de l'air raréfié, en cabine pressurisée et avoir moins de résistance, donc pouvoir voler avec moins de carburant. Donc j'ai toujours eu cette notion de l'efficience, de la protection de l'environnement, de l'écologie, etc. Mais alors, ce qui s'est passé quand j'ai fait le premier tour du monde en ballon, sans escale, avec Breitling Orbiter 3, c'était en 99, j'ai grillé 3,7 tonnes de propane liquide. Et 3,7 tonnes quand j'ai décollé, 20 jours après le tour de la planète complet, il restait 40 kilos.
Et là, t'as pas eu peur à la fin de...
Mais justement, j'ai eu très peur de pas avoir assez de carburant pour terminer. C'était vraiment juste. Et je me suis dit que il fallait s'affranchir de la jauge de pétrole. Et quand on dit le ciel est la limite, c'est pas vrai. La limite, c'est le pétrole. La limite, c'est toutes ces énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui de manière aberrante, en les gaspillant de manière inefficiente, en polluant la planète. Et c'est là que je me suis dit, ma prochaine aventure, j'aimerais qu'elle soit sans carburant, totalement propre, pour montrer qu'on peut réécrire un nouveau cycle dans l'histoire de l'aviation. L'aviation a commencé en 1903 avec les frères Wright. Elle a abouti à l'alunissage de deux êtres humains en 1969. Truc extraordinaire qui a captivé l'humanité. Mais maintenant, il faut refaire un cycle avec des énergies renouvelables et sans pollution. Donc, c'est comme ça que le rêve de Solar Impulse a commencé.
C'est vraiment incroyable. Et en fait, aujourd'hui, enfin, Solar Impulse a pris un tout autre angle, puisque tu dis beaucoup qu'il faut des solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et donc, tu es là pour montrer qu'il ne faut pas décorréler économie d'écologie.
Oui, exactement. Alors ça, c'est mon côté psychiatre qui m'a appris que si on veut...
Tu peux peut-être me faire ma psychothérapie, en fait, direct.
Non, je veux pas faire ta psychothérapie à toi, Alice. J'aimerais faire la psychothérapie de beaucoup de dirigeants de ce monde. Mais pour ça, il faut apprendre à parler leur langage. Ça sert absolument à rien de parler de protection de l'environnement à un patron d'entreprise, qui a 50 000 salaires à payer à la fin de chaque mois, ou à un chef d'État qui se trouve confronté à toute une série de forces, en opposition les unes avec les autres et qui doit essayer de concilier. Donc moi, ce que je fais, c'est que, en parlant leur langage, je leur montre que la protection de l'environnement est une opportunité financière. C'est des nouveaux débouchés industriels, financiers, économiques. Et pour prouver ça, pas seulement avec des mots, parce que ça suffit pas, j'ai lancé la Fondation Solar Impulse sur le défi de sélectionner 1000 solutions qui sont des technologies, des systèmes, des produits, des matériaux, des programmes qui sont déjà aujourd'hui capables de protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable. Et le but, c'est justement de les amener aux entreprises, aux industries, au monde politique, pour donner les outils de mettre en place des politiques environnementales et énergétiques beaucoup, beaucoup plus ambitieuses.
Donc, ces 1000 solutions, en fait, elles sont permanentes ou parfois, du coup, il y en a qui s'arrêtent, des partenariats qui s'arrêtent et tu en recherches de nouvelles?
Non, alors ces solutions, elles viennent de start-up ou de grandes entreprises. Elles nous sont soumises et elles sont ensuite expertisées par un groupe de 400 experts qui sont des spécialistes qui travaillent bénévolement avec la Fondation Solar Impulse de manière à pouvoir labelliser ces solutions. Donc, les solutions reçoivent le label Solar Impulse Efficient Solution. Et à partir de là, elles entrent dans le portfolio qu'on peut promouvoir parce qu'on sait qu'elles sont rentables, on sait qu'elles sont crédibles, on sait qu'elles protègent l'environnement.
C'est génial et tu en as vu vraiment émerger et décoller grâce à l'accompagnement de Solar Impulse.
Ah ben oui, mais aujourd'hui…
Est-ce que tu as un exemple,
alors,
par exemple ?
Sur les 1000 qu'on s'est donné comme but de trouver pour l'année prochaine, on en a déjà 670. C'est déjà beaucoup. Et il y a un exemple.
Oui, donc c'est parce que c'est 1000 par an.
Non, c'est 1000 en tout. Mais quand on en aura 1000, on continuera à prendre les meilleures qui nous sont soumises, c'est sûr. Mm. Mais tu vois, une jolie histoire de succès, c'est le communiqué de presse d'Air France il y a quelques jours, qui annonce que dans le cadre de ses opérations pour devenir une compagnie propre, Air France électrifie toutes ses opérations au sol grâce à 3 sociétés qui sont justement labellisés par la Fondation Solar Impulse.
Ah, c'est génial, tu dois être fier.
Deux autres entreprises, et Air France marque nommément que ces entreprises sont labellisées par la Fondation Solar Impulse. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que on a poussé ces entreprises dans le monde aéronautique parce qu'elles ont une place à jouer là pour montrer qu'on peut couper les réacteurs auxiliaires des avions dans les aéroports pour recharger les avions uniquement avec l'électricité de l'aéroport, sans avoir une turbine qui fait génératrice d'électricité quand l'avion est parqué, avec un système qui permet d'amener les avions au seuil de piste en tracteur électrique. C'est super important. Il y a une start-up qui est utilisée par Transavia et qui va être utilisée par Air France aussi, c'est SkyBreath. C'est un logiciel qui permet aux pilotes d'économiser à peu près 5% de leur carburant en fonction des procédures de vol.
Ah, on a eu Alexandre Ferret de Open Airlines, justement, dans l'empreinte.
Eh ben voilà. Eh bien voilà. Skygraph.
Les belles synergies se rencontrent.
Le logiciel de Open Airlines.
Ouais.
Donc, tout se retrouve, mais tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est un monde de technologies nouvelles, un monde de pionniers, un monde de gens bien intentionnés et passionnés. Et on met ce monde-là en interface avec le monde industriel et le monde politique. Et parce que c'est rentable, parce qu'on n'est pas avec un discours écolo, utopiste de décroissance, etc., eh bien, les entreprises sont d'accord de jouer le jeu. Et elles s'ouvrent à tous ces nouveaux produits, elles essaient de les intégrer, etc. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais je trouve que, compte tenu du fait qu'on a commencé il y a que 2 ou 3 ans, avec la Fondation Solar Impulse, on a déjà des magnifiques histoires de succès.
Oui, justement, tu as dû voir une accélération aussi de la demande des entreprises.
Des entreprises et des régions et des pays.
Et des régions.
On a un partenariat magnifique avec la région Grand Est. On est en train de conclure des partenariats avec d'autres régions de France. On en a conclu avec la Wallonie, avec l'Écosse. On voit que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques maintenant sont en train de comprendre que la relance économique aujourd'hui, elle doit pas simplement être verte, elle doit être efficiente. Parce que c'est l'efficience dans l'énergie, l'efficience dans l'économie circulaire, l'efficience dans la production de nourriture, dans l'extraction de matières premières, qui permet des économies, qui permet de faire plus de profits, puisqu'on arrête de gaspiller. Et on a vécu jusqu'à maintenant dans une société de gaspillage absolument invraisemblable. C'est ça qui a détruit une grande partie de notre milieu vital, finalement. Et il faut maintenant aller vers une efficience en utilisant les technologies qui sont possibles et qui existent aujourd'hui.
Je trouve ça d'autant plus inspirant, notamment avec aussi cette crise que l'on a vécue, enfin que l'on vit toujours, cette crise du Covid, ou de la Covid, je crois d'ailleurs qu'on dit de la Covid. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un monde de demain ?
Alors, il y aura un monde de demain, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est que le monde de demain ressemble au monde d'hier. Parce que le monde d'hier, il faut quand même pas se voiler la face, c'était un monde qui était fragile, il a suffi d'un petit virus pour le faire s'écrouler, il était instable, il était polluant, il était inéquitable, il devenait de plus en plus dangereux. Donc aujourd'hui, si c'est ça qu'on veut retrouver, j'espère bien qu'il y aura suffisamment de mouvements contraires pour qu'on ne retourne pas en arrière, mais qu'on aille dans le futur. Le monde du futur, c'est un monde où il doit y avoir beaucoup moins d'inégalités, parce que les inégalités sont non seulement moralement inacceptables, mais aussi extrêmement dangereuses sur le plan sécuritaire. C'est un monde qui doit être beaucoup plus stable, qui doit arrêter de délocaliser une grande partie de nos besoins vitaux simplement pour gagner quelques centimes de plus. Et par appât du gain, finalement, on fait faire 3 fois le tour du monde à tous les produits qu'on consomme. Enfin, je caricature un tout petit peu parce que ça m'énerve.
Pas tant que ça. Tu sais, pas tant que ça. Franchement, ouais. Honnêtement, c'est triste à dire, mais tu ne caricatures pas tant que ça.
Oui, mais c'est ça qui est grave. Et il faut pas recommencer un monde comme ça. Il faut absolument que le monde qu'on reconstruit avec les milliards d'euros de subsides soit un monde qui a été reconstruit grâce à des conditions posées à ceux à qui on donne des subsides. Exemple, l'industrie automobile. On va quand même pas subventionner l'industrie automobile pour continuer à faire des gros véhicules polluants qui seront interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans. On se tire une balle dans le pied. On subventionne un truc qui sera bientôt interdit. C'est évident qu'il faut subventionner l'industrie automobile pour qu'elle fasse des véhicules beaucoup plus propres, beaucoup plus efficients. Et on a par exemple un module qui a été sélectionné et labellisé par la Fondation Solar Impulse, ça s'appelle Anti-Smog, et ça permet d'enlever 80% des particules dans un moteur à combustion et de diminuer de 20% la consommation d'essence ou de diesel. Donc c'est quelque chose qui devrait être obligatoire sur tous les véhicules à essence ou diesel. Et c'est des systèmes qui commencent maintenant à être utilisés par exemple sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, les véhicules de piste, commence à être rétrofité avec ce système-là. On peut pas passer tous à l'électrique immédiatement pouvoir rétrofiter la flotte de moteurs thermiques de manière à la rendre beaucoup moins polluante, c'est une nécessité absolue. Donc il faut que, je donne ça comme exemple, il faut que toutes les subventions données à l'industrie soient dirigées vers une diversification dans l'efficience et dans la protection de l'environnement.
Et c'est là qu'on voit que c'est important de mettre aussi l'État au cœur de tout ça, puisque c'est eux qui donnent les subventions et que les entreprises, enfin, faut qu'elles agissent bien sûr, mais il faut aussi alerter les États.
Mais complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois, les États disaient on peut rien faire parce que les entreprises vont licencier, vont perdre des emplois, vont disparaître si on les force à devenir écologiques. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui commencent à demander au gouvernement d'avoir des règles environnementales.
Oui, c'est ça, tout à fait, des réglementations.
Exactement, parce qu'elles ont besoin de prédictibilité et de certitude. Ce qui est terrible pour une entreprise, c'est de ne pas savoir dans quelle direction investir. S'ils font des investissements puis que dans 2 ans, le gouvernement met des règles plus strictes, ils sont perdus. Par conséquent, ils veulent savoir maintenant ce qui va se passer. Et eux, finalement, ils sont tout à fait d'accord d'être très écologiques. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est la distorsion de concurrence où d'autres entreprises vont être exemptées de ces règles, ou alors qu'ils fassent beaucoup d'efforts au plan national et puis que les frontières soient complètement perméables à des produits polluants fabriqués dans des conditions inacceptables et qui viennent inonder le marché intérieur. C'est ça qui n'est pas normal.
Mais est-ce que tu penses que toutes les entreprises sont égales face aux enjeux écologiques ou pas?
Non, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans des marchés extrêmement polluants et qui ont plus de peine à se diversifier. Mais quand je dis plus de peine, ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Il y a un exemple magnifique avec Schlumberger. Schlumberger est une entreprise internationale d'exploration et de forage pétrolier. Et ils ont développé une spin-off, qu'on a labellisée d'ailleurs, qui fait du forage géothermique en ville. Ils ont développé une technologie pour forer en oblique. Donc, ils prennent une place de parking devant un immeuble au centre-ville. Ils percent en quelques jours à 200 mètres de profondeur en oblique, plusieurs puits géothermiques, et ça permet de mettre des pompes à chaleur dans des immeubles.
C'est génial, ça.
Mais c'est extraordinaire quand on sait.
Et pourquoi ça, on peut pas tous l'avoir?
Mais on peut tous l'avoir. La seule chose.
C'est la demande. Il faut que la demande vienne aussi du consommateur, en fait.
Mais oui, mais le consommateur, il se dit, mon chauffage au fioul, il est légal. Donc pourquoi est-ce que je changerais? L'exploitant du bâtiment dit « mon bâtiment, il respecte les normes d'aujourd'hui, donc pourquoi est-ce que je changerais ?» Donc, c'est les normes qui doivent changer. Les normes doivent changer pour être beaucoup plus strictes, mais avec une possibilité d'amortir les investissements. Par exemple, si un investissement permet de diviser par 4 la consommation énergétique d'un bâtiment, eh bien, il faut que celui qui fasse les travaux puisse en engranger la moitié et que les locataires puissent faire la moitié d'économies sur leur facture d'énergie. Mais ça doit pouvoir être répercuté pour être rentable.
Donc, on retrouve l'efficience.
Donc, toute une série de nouvelles réglementations qui doivent être faites. Des réglementations, il n'en faut pas plus, il faut qu'elles évoluent. Il faut des nouvelles réglementations. Et ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bureaucratie dans ce monde où le but est de faire durer le système le plus longtemps possible, parce que c'est quand même plus facile et moins fatigant.
Mais est-ce que tu vois quand même que ça va dans le bon sens en ce moment ou pas?
Dans les paroles, ça va dans le bon sens, dans les actions, pas du tout.
Mais en fait, on a presque l'impression que green is the new sexy maintenant et qu'il y en a plein qui aiment bien suivre cette, entre guillemets, tendance, mais sans vraiment agir et agir en profondeur alors qu'il y a plein de choses à faire.
Mais tu sais, moi, j'aime pas tellement le green.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Il est trop noté politiquement. Le vert, aujourd'hui.
C'est un parti politique.
C'est un parti politique.
Tout à fait.
C'est un parti politique qui prend des voix aux autres et par conséquent, les autres commencent à résister et se battre finalement contre l'écologie de manière à pas donner des voix aux écologistes. C'est ça qui est une aberration politique. Moi, j'aime mieux le clean que le green, donc le propre, l'efficient, parce que ça transcende tous les partis. Tu vois, les partis aujourd'hui, il faut quand même voir une chose. Il y en a un qui défend l'écologie, il y en a un qui défend la solidarité, il y en a un qui défend la liberté d'entreprendre, et il y en a un qui défend la sécurité. Mais on a besoin des 4. Ce sont 4 valeurs dont le citoyen a besoin. Mais il y a 4 partis qui portent chacun une de ces valeurs. Tu vas voter pour qui? Mais moi, je comprends les gens qui s'abstiennent. Ils savent plus pour qui voter parce qu'ils ont envie des 4 et ils trouvent pas un seul parti qui prône les 4.
C'est comme une chaise, si tu enlèves les 3 autres, ça tombe.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, avec La République En Marche, a essayé de réunir des valeurs de toute une série des partis. C'est difficile en France de changer le fonctionnement des partis politiques qui sont quand même très enracinés dans la tradition. Mais cette volonté d'essayer de prendre ce qui est bon dans chaque parti pour le mettre dans un parti qui promeut toutes ses valeurs en même temps, l'intention est excellente. Maintenant, il faut réussir. Maintenant, il faut réussir à le faire vraiment.
C'est compliqué. Tout ça, ça reste compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser que, tu sais, en entreprise, depuis quelques années, on voit émerger des postes de direction de la RSE. Mais tu ne penses pas que finalement, la responsabilité sociale et environnementale, tu ne penses pas que finalement, cette RSE devrait s'inclure dans tous les métiers?
Mais bien sûr. Mais complètement.
Plutôt que d'être complètement délocalisé à une entité unique, quoi.
Ça ne doit pas être un faire-valoir pour une entreprise. Ça doit être quelqu'un qui est intégré au conseil d'administration pour s'assurer que tous les autres membres du conseil d'administration aient compris ce que c'est que la responsabilité sociale et environnementale. Mais surtout aujourd'hui, c'est la meilleure manière d'attirer des talents parce que les jeunes qui ont fini leurs études choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont. C'est plus les entreprises qui les choisissent, c'est les jeunes qui choisissent ces entreprises. Donc ça devient un problème pour beaucoup d'entreprises qui n'arrivent plus à recruter des compétences suffisantes parce que leurs valeurs environnementales ne sont pas acceptables par les jeunes. Et puis on voit qu'il y a des études qui ont été menées aux États-Unis qui montrent que quand on a de la bienveillance pour ses clients, pour ses employés, pour ses fournisseurs, eh bien le profit de l'entreprise est meilleur, on fonctionne mieux. Et en plus de ça, quand on rajoute tous les débouchés environnementaux maintenant qui créent des nouvelles opportunités économiques, industrielles, financières, etc., ben c'est évident que le vieux modèle doit être aboli et qu'on doit passer à une nouvelle manière de fonctionner.
Finalement, l'écologie, ce serait presque du bon sens.
Mais moi, je dis toujours qu'il faut être logique beaucoup plus que écologique.
Et j'ai envie de savoir un petit peu, toi, au quotidien, même si je me doute que tu sois très engagé, est-ce que tu as des actions éco-responsables que tu fais en tant que consommateur? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui aimeraient s'inspirer au quotidien, trouver des petites astuces pour à sa propre échelle, avancer, faire concrètement des choses en faveur de l'écologie. Laisser une empreinte positive, même pas neutre, positive. Est-ce que tu as des petites astuces à donner?
Alors, complètement. J'ai une maison qui est entièrement isolée. J'ai remplacé, quand j'ai acheté la maison, le chauffage au fioul par des pompes à chaleur. Ça m'a permis de diviser par deux ma facture énergétique annuelle. J'ai des panneaux solaires. Et quand je ne vole pas en avion solaire électrique, eh bien, je roule en voiture électrique. J'ai une Kona Hyundai qui est 100% électrique. Et quand je prends l'avion, je compense totalement, que ce soit à titre professionnel ou privé, je compense totalement les émissions de CO2 que je génère.
Tu me parles de voler en avion solaire, ça veut dire que tu fais souvent des petits tours en avion solaire?
Non, mais ces dernières années, c'est quand même essentiellement en avion solaire que j'ai volé.
C'est génial. Hein.
Et bon, maintenant, Solar Impulse fait une nouvelle carrière sans pilote.
Ah oui?
Il va fonctionner en Espagne avec une télécommande et pilotage automatique pour faire des observations pour l'agriculture, pour la météorologie, surveillance, photographie, Internet, etc. C'est tout un projet expérimental qui s'est développé là.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, pour Solar Impulse, pour toi? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Je ne sais pas si tu peux en parler.
Alors, écoute, le projet sur lequel je travaille maintenant avec toute mon équipe à la Fondation Solar Impulse, c'est vraiment d'obtenir le plus vite possible les 1000 solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement.
Et on va passer l'appel ici aussi. Monde, si vous écoutez, que vous êtes une solution, n'hésitez pas à vous rapprocher de Solar Impulse.
Oui, à la Fondation Solar Impulse, on vous accueillera à bras ouverts pour examiner votre solution. Et puis, le but avec ces solutions, c'est de refaire un tour du monde, tour du monde des solutions, pour amener tout ce portfolio aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, aux grandes institutions, et leur donner les outils qu'il leur faut pour accomplir leurs buts environnementaux. Les pays disent on veut être totalement neutre sur le plan carbone en 2050 parce qu'ils savent qu'ils seront plus là et que c'est les successeurs qui feront le travail. Par contre, ils ont beaucoup de peine à
dire. J'adore cette franchise.
Ah ouais, mais ils ont beaucoup de peine à dire on va réduire de 5% les émissions l'année prochaine, Ça, ils n'arrivent pas, mais 100% pour 2050, ça, ils croient qu'ils y arriveront.
C'est vrai. Mais souvent, je me dis ça. Mais alors, donc, c'est dans 3 ans. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement?
Oui.
Mais moi, j'ai une question. Alors, c'est personnel. Finalement, nous, à notre échelle, Europe, même si on est gros et qu'on avance, si la Chine et les États-Unis ne s'y mettent pas, on court à la catastrophe quand même. Est-ce que tu penses pouvoir évangéliser ces bonnes pratiques vers ces continents?
Alors, en leur disant qu'il faut lutter contre les changements climatiques, non,
non.
En tout cas pour les États-Unis, parce que c'est un dogme républicain que le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Par contre, oui, si on leur dit que toutes ces technologies sont beaucoup plus rentables que celles qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'il y a moyen de créer plus d'emplois, moyen de faire plus de profits, etc. Et à ce niveau-là, la Chine l'a très bien compris. Rappelons quand même une chose, même si la Chine et les États-Unis continuent dans la voie dans laquelle ils sont aujourd'hui, le Brésil aussi, mais l'Europe peut très bien devenir le premier continent neutre sur le plan carbone, et c'est pas ça qui va changer le monde complètement, parce que les émissions de l'Europe en CO2, c'est 9% de ce qu'il y a dans la planète. Mais par contre, ça rendra l'Europe beaucoup plus riche et beaucoup plus respirable, parce que c'est pas que les changements climatiques. La pollution de l'air tue 8 millions de personnes par année. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un de notre famille. Et ça, on devrait communiquer beaucoup plus là-dessus. On respire un air qui est toxique. On boit de l'eau qui est empoisonnée par des tas de produits chimiques dans les nappes phréatiques. On a des microplastiques dans les océans qui vont dans la viande du poisson qu'on mange. Et on a des toxiques alimentaires. On a des aberrations dans les produits chimiques de conservation ou de fabrication industrielle de nourriture, dans les pesticides, dans les engrais, etc. Mais tout ça, il faut aussi en tenir compte si on veut une bonne qualité de vie.
Tu es en train de réussir à me convaincre de lancer mon propre potager, là.
Mais moi, je l'ai déjà.
Et de mousse, ça, tu l'as déjà.
Alors,
c'est mon rêve.
Le résultat du confinement, c'est que j'ai fait mon potager. Je me dis que pour la prochaine pandémie, il faudrait que j'arrive à être autonome.
J'adore. Et ben moi aussi, ça va être mon défi. Franchement, j'étais ravie, Bertrand, de t'avoir dans l'empreinte. Je pense que tu inspires beaucoup de personnes et faut qu'on se mobilise tous comme toi à encourager cette dynamique, bien sûr, de ne pas décorréler économie d'écologie et parler efficience. Ça, c'est hyper important qu'en fait, c'est efficace que l'on fait des économies. Souvent, j'ai aussi des remarques de personnes qui me disent « Oui, mais moi, d'abord, j'essaie de nourrir ma famille. L'écologie, on verra après. » Mais si tu sais que tu vas manger local de saison, ça coûtera moins cher, ce sera en circuit court et du coup, tu fais des économies. Donc finalement, ce qu'on disait ensemble, c'est que l'écologie, ça reste aussi du bon sens.
Mais complètement. Mais nourrir sa famille, c'est totalement primordial. Mais on veut la nourrir avec quoi? Avec des saloperies qui viennent de l'autre bout du monde ou bien des choses qui sont faites avec raison, mesure et qualité?
En tout cas, merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Podinstall, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils tout aussi inspirants que Bertrand Picard. Franchement, j'étais ravie de l'avoir dans l'empreinte. Bonne écoute.
Merci de l'invitation, Alice.